et appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient comme tous les matins à cette heure-ci. RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Et ce matin, nous attendons vos réactions, vos témoignages sur le climat explosif à Kinshasa. Depuis deux jours, vous le savez, la capitale congolaise est le théâtre de violences. Des dizaines de personnes ont été tuées, 50 selon l'opposition, 17 selon le pouvoir. L'ONG Human Rights Watch parle quant à elle de 37 civils tués par les forces de sécurité et de 6 policiers et un membre du parti présidentiel tué par les manifestants. Des manifestants qui se disent déterminés à poursuivre leurs actions pour obtenir le départ de Joseph Kabila dans 3 mois. Je vous rappelle que le second et dernier mandat du président sortant se termine le 19 décembre et l'opposition exige qu'il quitte le pouvoir dès le 20 décembre. Pour l'instant, le président Kabila ne donne et n'a donné aucun signe de vouloir véritablement quitter son poste, alors que tout porte à croire que l'élection présidentielle ne se tiendra pas cette année, elle ne se tiendra pas dans les délais constitutionnels. Alors comment sortir de cette crise? Quelle solution faut-il privilégier? Vous qui vivez à Kinshasa, dans la capitale congolaise, appelez-nous, vos témoignages nous intéressent, dites-nous comment vous vivez ces événements depuis deux jours. 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à nous envoyer vos réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI, comme tous les matins, vous nous appelez, vous nous interrogez pour mieux comprendre l'actualité, la rédaction se mobilise. On va commencer d'ailleurs avec des questions concernant l'affaire des hackers ivoiriens au Gabon, des hackers qui auraient tenté de truquer les résultats de la présidentielle gabonaise au profit de l'opposant Jean Ping. C'est en tout cas ce qu'affirme le camp d'Ali Bongo. Aubin, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, on vous écoute.
Oui, bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI. J'ai appris sur vos antennes l'arrestation d'hackers ivoiriens accusés par le clan Bongo d'avoir aidé l'opposant Jean Ping à essayer de falsifier les résultats de la présidentielle. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on sait précisément de ces hackers? De quelles preuves disposent les autorités pour porter de telles accusations? Et quelles sont les répercussions de ces accusations sur les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la République du Gabon?
Ah, effectivement. Sébastien Nemeth, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous rentrez du Gabon, vous étiez l'envoyé spécial d'RFI, vous avez suivi évidemment le déroulement de cette élection présidentielle et vous avez vécu finalement l'éclatement de cette affaire. Tout commence, donnons quelques repères tout de même à nos auditeurs, tout commence 3 jours après le scrutin présidentiel.
Oui, voilà, moi, dans mon souvenir, ça commence le 30 août, on attendait justement ces résultats, c'était une conférence de presse du ministre de la Communication. Il parle de hackers ivoiriens en lien avec l'application Regab. Alors Regab, c'est une application téléphonique inventée par un Gabonais installé au Québec pour diffuser les résultats instantanément avant leur annonce officielle. Soit dit en passant, c'est le nom aussi d'une bonne bière gabonaise. Passons. Donc le ministre Alain-Claude Bilibinzé ajoute avoir des preuves mettant en cause l'opposant Jean Ping et Mamadi Diané, qui est un conseiller du président ivoirien Alassane Ouattara, dans un complot pour corrompre 3 membres de la commission électorale et les faire démissionner avant les résultats. Donc là, on n'est plus vraiment dans le hacking, mais ça concerne toujours Abidjan. L'opposition sur cette affaire avait de toute façon réagi. Elle avait dénoncé, je cite, des histoires inventées de la part d'un pouvoir en train de perdre l'élection.
Ouais, et le lendemain, Ali Bongo est proclamé vainqueur. Le pays s'embrase. Et dans la nuit, on s'en souvient, le QG de Jean Ping est attaqué par les forces de sécurité. Des centaines de personnes sont d'ailleurs arrêtées au QG de Jean Ping.
Voilà, et quelques jours plus tard, le 5 septembre exactement, le ministre gabonais de la Communication parle à nouveau d'une implication forte de la Côte d'Ivoire aux côtés de Jean Ping. Et cette fois, Alain-Claude Bilibinzé annonce l'arrestation d'un Ivoirien à ce fameux QG de l'opposant. Un homme, selon lui, chargé, grâce à un système informatique, de capter des données électorales et de les falsifier. Là, il parle de hacking, hein, encore.
Quand vous dites qu'il parle, c'est le porte-parole du gouvernement gabonais.
Absolument, hein. Voilà, ministre de la Com. Cet homme, c'est un informaticien de 35 ans, appelé Yeo Sifowa Namogo. Selon le gouvernement, il travaillerait au Gabon à la demande d'un certain Jean-Marc Zoé, donc qui est chargé de mission à la présidence ivoirienne. Et là, le pouvoir gabonais affirme avoir récupéré des preuves de la tentative de fraude de l'opposition, sans aller vraiment dans le détail, mais effectivement, on sait que lors de l'assaut au QG de Jean-Ping, les forces de l'ordre ont saisi du matériel informatique, des ordinateurs, des téléphones portables, etc. L'opposition, de son côté, a reconnu employer un informaticien ivoirien qu'il devait simplement centraliser à Libreville les résultats envoyés par les représentants de l'opposition à travers le pays. Et le camp de Jean-Ping s'interroge. Comment hacker les procès-verbaux des bureaux de vote ? Qui sont à la base des feuilles de papier et non pas des fichiers informatiques, l'opposition avait dénoncé une diversion pure et simple.
Alors, quelles sont les conséquences de cette affaire, de ces accusations sur les relations entre Libreville et Abidjan ?
Alors, à court terme, en fait, la tension est un petit peu montée. Le ministre gabonais de la communication, porte-parole du gouvernement, a parlé, je cite, d'une ingérence inacceptable en provenance d'un pays ami, la Côte d'Ivoire. Puis très vite, Alain-Claude Bilibinzé, tout comme le ministre gabonais des Affaires étrangères, a spécifié que c'était pas l'État ivoirien qui était impliqué en tant que tel, mais des ressortissants ivoiriens haut placés. Les deux ministres ont répété, le Gabon ne met pas en cause un pays ami.
Oui, et Abidjan, rappelons-le, a de toutes les façons réagit très très vite.
Oui, Mamadi Diané et Jean-Marc Zoé, dont j'ai parlé, ont tous deux été limogés dès le 30 août. Abidjan a condamné un acte d'ingérence de ses deux employés. Bruno Koné, porte-parole du gouvernement ivoirien, a déclaré que le chef de l'État, Alassane Ouattara, n'admettait pas ce type d'intrusion dans les affaires d'un pays frère, qu'il n'y avait aucune raison que ces deux hommes s'immiscent dans les affaires gabonaises. Il a parlé d'actions individuelles. Et puis, la tension a définitivement baissé entre Abidjan et Libreville le 14 septembre dernier. Le ministre gabonais de l'Intérieur s'est rendu lui-même en Côte d'Ivoire. Il s'est entretenu avec le président Ouattara. Et ce jour-là, Paco Moubele-Boubeya a déclaré que le chef de l'État ivoirien avait pris les décisions qui s'imposaient, ajoutant que les relations entre les deux pays ne pourraient pas être entamées par qui que ce soit, je cite. Donc aujourd'hui, la situation diplomatique semble quand même revenue à la normale.
Ouais, et concernant donc cet informaticien ivoirien, j'imagine qu'il y aura un procès.
Alors il a été entendu, il y a eu un mandat de dépôt, il est incarcéré. Il y a eu des accusations, une conférence de presse par le procureur. Il y a toute une liste d'accusations. Maintenant, l'instruction est en cours et on attend son jugement éventuel. En tout cas, c'est le dossier est sur la table du juge d'instruction pour l'instant.
Affaire à suivre donc. Merci Sébastien Lemaitre. Aubin, voilà ce qu'on pouvait vous dire à cette heure-ci concernant donc cette affaire des hackers ivoiriens au Gabon. 10h17 à Paris. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va s'intéresser maintenant à Angela Merkel, la chancelière allemande qui enchaîne les revers électoraux pour preuve dimanche dernier à Berlin. Elle a une fois de plus, en tout cas son parti a une fois de plus perdu des voix en faveur du parti populiste, l'AFD. Bonjour Kaba.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes en Guinée, soyez le bienvenu.
Oui. Après le revers électoral subi par son parti aux élections régionales à Berlin, la chancelière allemande Angela Merkel a fait son mea culpa sur la gestion de la crise migratoire. Alors, peut-on s'attendre à un durcissement de la politique migratoire allemande ? Et que compte faire Angela Merkel ?
Ah, c'est vrai que c'est la première fois qu'Angela Merkel assume finalement sa part de responsabilité dans la multiplication des échecs électoraux. Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour Juan, bonjour Kaba.
Vous êtes le correspondant des RFI à Berlin. Alors c'est vrai que comme dans les autres régions, lors des précédents scrutins, les électeurs ont surtout sanctionné la politique migratoire d'Angela Merkel. Elle a reconnu, elle a admis que son gouvernement s'était insuffisamment préparé à accueillir tous ces réfugiés.
Oui, effectivement, elle a reconnu que l'Allemagne n'était pas préparée à l'automne, plutôt à l'été 2015, à accueillir autant de réfugiés. Elle a même évoqué les erreurs de l'Allemagne dans le passé, puis qui, par exemple, se satisfaisait très bien des accords de Dublin qui permettaient que les réfugiés restent dans les pays périphériques de l'Europe. Elle a estimé que sa formule, entre-temps quasiment historique, « Wir schaffen das, nous y arriverons », était qu'elle ne souhaitait plus l'utiliser, qu'elle avait entre-temps été galvaudée, était devenue une phrase creuse, qui provoquait, et elle a estimé qu'elle aimerait bien pouvoir remonter le temps en quelque sorte pour revenir sur un certain nombre de mesures qui ont été prises. Ceci dit, elle reste fidèle à sa posture éthique et humaniste septembre 2015 en ouvrant les frontières de l'Allemagne. Elle a insisté sur les progrès qui ont été faits pour l'intégration des réfugiés et aussi insisté sur des lignes rouges qui pour elle ne sont pas franchissables, par exemple les revendications de certains à droite, voire très à droite, ne pas accueillir par exemple de musulmans et uniquement des réfugiés chrétiens, ou bien, c'est ce que revendiquent les conservateurs bavarois, avoir une limite supérieure par an, au-delà de laquelle on n'accueillerait plus de réfugiés.
Donc, pas question pour elle de réduire le nombre de réfugiés sur le territoire allemand. Elle va, j'imagine, enfin, je pense, tirer les leçons de ces différents revers électoraux. On est tout de même à un an des élections législatives en Allemagne. Elle va, j'imagine, peut-être, trouver des compromis tout de même pour essayer de gagner son électorat.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que on a en fait une adaptation de la rhétorique politique à un changement qui, lui, a déjà eu lieu il y a plusieurs mois. C'est ça, on est un peu dans l'ordre du fantasme. On a un peu l'impression, à l'étranger notamment, que rien n'a changé depuis la situation il y a un an en Allemagne. D'abord, il y a un nombre infiniment plus réduit de réfugiés qui arrivent en raison de la fermeture de la route des Balkans l'hiver dernier, en raison de l'accord avec la Turquie. Et ensuite, il y a eu un durcissement de la politique d'asile de l'Allemagne ces derniers mois, le statut des réfugiés qui est moins favorable, des mesures, on veut durcir les mesures pour expulser plus facilement ceux qui n'obtiennent pas l'asile politique ou qui sont délinquants, le regroupement familial est plus difficile et la liste des pays dits sûrs a été élargie à tous les pays du Balkan et notamment aux pays de l'Afrique du Nord, ce qui limite aussi les possibilités pour déposer de nouveaux dossiers. Donc tout ça a déjà été fait, ce qui rend un petit peu difficile le dialogue avec les conservateurs bavarois, surtout qui tirent à boulet rouge sur la politique de la chancelière, alors qu'en fait sur le fond les différences sont assez minimes. Mais c'est vrai que les électeurs ont infligé une gifle électorale à la chancelière et à son parti, et qu'il y a au sein même de son propre parti, la CDU, des critiques dont elle veut tenir compte et essayer de regagner sur la durée les électeurs qui ont boudé cette fois-ci les chrétiens-démocrates pour notamment rejoindre les rangs de ce nouveau parti populiste Alternative pour l'Allemagne.
L'AfD qui a vu le jour il y a 3 ans et qui est déjà présent dans 10 parlements régionaux sur les 16 que compte l'Allemagne. Merci d'avoir été avec nous, Pascal Thibault, ce matin en direct de Berlin. 33 9 693 693 70. Beaucoup de questions sur le scandale des carburants toxiques distribués en Afrique. On vous en a parlé sur l'antenne des RFI. Vous avez d'ailleurs pu vous exprimer sur ce scandale en début de semaine dans cette émission. Florence Maurice du service Afrique nous rejoint à l'instant. Bonjour Florence.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va prendre quelques questions qui sont, dirons-nous, représentatives de l'ensemble des questions que nous avons reçues. On va commencer avec Arfang. Bonjour Arfang.
Bonjour Juan Gomez. Avant tout, j'aimerais remercier votre standardiste Marie.
Merci pour elle, merci pour les standardistes et de votre soutien. On vous écoute. Vous nous appelez de Richard Toll, c'est au Sénégal.
Bien sûr. Des négociations, des négociants suisses ont accusé par une ONG d'avoir exporté des carburants toxiques en Afrique. Que sait-on des conséquences environnementales et sanitaires de cette carburant toxique?
Alors, Florence Maurice, on rappelle que des carburants peuvent avoir une teneur en soufre jusqu'à 1000 fois plus élevée qu'en Europe. C'est ce qui ressort de cette enquête menée par l'ONG suisse Public Eye, enquête menée dans 8 pays africains, il faut être précis, l'Angola, le Bénin, le Congo-Brazzaville, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Zambie. C'est important de rappeler la liste de ces pays. Les conséquences environnementales et sanitaires, que sait-on à l'heure actuelle?
Alors, il y a peu de données chiffrées en réalité, mais une chose est sûre, on est face à une véritable bombe à retardement. Hein, parce que si aujourd'hui le nombre de véhicules par habitant est plus faible en Afrique qu'ailleurs, la croissance automobile promet d'être exponentielle sur le continent avec des conséquences désastreuses sur la pollution de l'air et donc sur la santé, sachant que les gaz d'échappement sont reconnus comme l'une des principales sources de pollution en Afrique. Quelques chiffres tout de même, Juan, pour mesurer l'ampleur du phénomène. Selon les projections de l'ICCT, c'est une ONG, la pollution de l'air liée au trafic routier causera en 2030 3 fois plus de décès prématurés en Afrique qu'en Europe, aux États-Unis et au Japon réunis.
Ah oui.
Voilà, il faut se rendre compte de l'ampleur de ce chiffre. Et la Banque mondiale estime que si la limite de soufre autorisée dans le diesel était ramenée à 50 ppm, parties par million, c'est comme ça qu'on mesure la teneur en soufre, eh bien, sur 10 ans, les économies africaines pourraient économiser 7 milliards de dollars en coûts de santé.
Ouais, vous parliez de cette ONG ICCT. Cette ONG affirme que Dakar au Sénégal et Lagos au Nigeria ont déjà une qualité de l'air plus mauvaise que Pékin, aussi incroyable que cela puisse paraître. en cause notamment ces carburants à forte teneur en soufre. Qu'est-ce qui fait que le soufre contenu dans ces carburants distribués en Afrique soit si nocif?
Alors d'abord, la combustion du soufre provoque le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de soufre. C'est un gaz corrosif qui entre dans la composition des pluies acides. Hein, pour vous donner une idée, sa présence dans l'air affecte les voies respiratoires, le fonctionnement des poumons, provoque des irritations, un risque accru de cancer des poumons. Et ce n'est pas tout. Le soufre favorise aussi l'émission de particules fines. Vous savez, c'est ces particules cancérigènes hein, qui viennent se loger profondément dans les poumons. Car le soufre, je le disais, est corrosif. Il attaque la matière et donc il détruit les technologies de contrôle des émissions de particules fines. Ces filtres installés sur les véhicules est censé limiter la pollution. Résultat, avec les taux de soufre actuels, même si on changeait tout le parc automobile sur le continent pour installer des véhicules dits propres, eh bien, ça ne servirait quasiment à rien.
Est-ce que ces conséquences, finalement, n'ont pas été sous-estimées?
Alors, on connaît depuis longtemps les effets du soufre sur la santé. Ce n'est pas pour rien hein, si l'Europe et les États-Unis ont légiféré. Mais ce qui a été sous-estimé, et vous en parliez, c'est l'ampleur de la pollution de l'air en Afrique. Hein. C'est seulement en 2014, par exemple, qu'on s'est rendu compte que Dakar dépassait de 3 fois les limites fixées par l'OMS pour la concentration en particules fines.
Autre question standard, nous accueillons Tamba Sidi, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de la RFI.
Nous vous écoutons avec Florence Maurice.
Voilà. Les négociants suisses qui sont accusés dans le rapport de l'enquête peuvent être sanctionnés ou inquiétés?
Alors, des négociants suisses, effectivement, ils sont plusieurs à être cités dans ce rapport rendu public la semaine dernière. Malheureusement, on a envie de dire, Florence Maurice, ils ne peuvent pas être sanctionnés, ces fameux négociants suisses.
Et non, c'est triste à dire, mais à l'heure actuelle, non. Hein, certes, voilà, ils fabriquent à dessein un carburant toxique, il faut le rappeler, pour le vendre en Afrique. Mais ils le font dans la limite des normes autorisées dans chaque pays et jouer sur les faiblesses législatives des États africains, eh bien, ça peut être considéré comme moralement répréhensible, mais ce n'est pas illégal.
Donc, si je comprends bien, la méthode est certainement contestable, mais elle n'est pas illégale. Ces négociants ont tout à fait le droit de produire, de fabriquer ce pétrole, ce carburant. Est-ce que ça peut changer dans les prochaines années?
Alors, c'est ce qu'espèrent évidemment les auteurs du rapport hein, qui a révélé ce scandale. Public Eye fait en fait partie d'une coalition d'ONG suisses qui a lancé une pétition et récolté 140 000 signatures pour demander aux autorités suisses, comme le permet la loi dans ce pays, d'organiser un référendum pour eh bien, obliger les entreprises à rendre des comptes sur les conséquences de leurs activités à l'autre bout du monde plutôt que de fermer les yeux. Et cette coalition s'appuie sur des recommandations qui datent de 2011 et qui émanent du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Hein, c'est pas n'importe quoi. Ces recommandations de bonne conduite disent en résumé qu'une entreprise devrait être obligée d'identifier et de prévenir les violations en matière des droits humains qui résultent de ses activités, quelles que soient les législations locales. Or, le droit à la santé est un droit humain.
Et il me semble, Florence Maurice, que ces principes directeurs ne sont pas vraiment contraignants, en tout cas pas pour l'instant.
Voilà, c'est pas contraignant, mais les initiatives pour transformer ces recommandations en loi se multiplient. Je vous parlais de la Suisse. Au printemps dernier également, 8 parlements nationaux européens, dont la France, se sont regroupés pour demander à la Commission européenne, à son tour, de légiférer. Mais vous avez raison, rien n'est fait. Hein, si on revient à l'initiative suisse, par exemple, si la loi proposée par la coalition était adoptée, elle s'appliquerait à toutes les multinationales qui ont leur siège social en Suisse. Et ça veut dire des entreprises, par exemple, comme Monsanto ou Philip Morris. Donc on imagine que la bataille à venir s'annonce rude.
Ouais, et puis, évidemment, les associations de consommateurs dans les pays concernés directement par ce scandale vont tenter d'obtenir des modifications de la réglementation. On a vu d'ailleurs, au début de l'année, plusieurs pays africains modifier la loi. 5 pays, en l'occurrence, ils sont en Afrique de l'Est, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, le Burundi, qui ont abaissé la limite de soufre. Exemple à suivre. Alors, on a d'autres questions encore sous le coude. Marc Guénia, de cette ONG suisse Public Eye, sera avec nous demain. Il y répondra et on prendra le temps, évidemment, de vous éclairer davantage sur ce scandale des carburants toxiques. Merci beaucoup, Florence Maurice.
Merci
à suivre le journal et on revient dans 10 minutes pour parler de la situation explosive en République démocratique du Congo et notamment à Kinshasa, dans la capitale. À tout de suite.